CFM Villefranche, le mag.
Bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine. Le mag Santé, Bien-être, Fleurette, Pâquerette avec pour débuter Karine Justeau pour le rendez-vous Diet News. Bonjour Karine avec un K Justeau, avec un O.
Bonjour à tout le monde. Vous ne me l'aviez pas encore faite celle-là, il me semble depuis 10 ans.
Oui, c'est vrai.
On travaille ensemble.
C'est vrai.
C'est la nouveauté du jour.
Madame Pomme-Pote pour cette première partie d'édition avant d'accueillir Delphine Henequet, naturopathe, mycothérapeute pour la vie nature. Santé, bien-être, mais ça commence par l'alimentation, c'est une base. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler, Karine ?
De balance.
De balance, ah bon ? Ah bah oui, bah c'est à la mode avec les hashtags là et puis tout ça ?
Avec l'hashtag, non. Non.
Ah, hashtag
non, pas balance.
Balance
ton. Non, pas ça. Non plus l'horoscope et non plus le fait de peser les aliments, mais par contre de se peser soi-même. J'avais envie de faire une petite rubrique là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a plein de patients qui me demandent assez régulièrement. Est-ce que je dois me peser tous les jours?
Est-ce que je dois me peser
toutes les semaines? Est-ce que je dois jamais me peser? Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, justement?
Ah bah non, moi, je ne sais pas du tout. Mais alors, tous les jours, ça me semble un peu excessif. Mais j'ai un collègue qui a entamé un régime et qui, tous les jours, surveillait les grammes qu'il perdait. Et c'est encourageant. C'est un peu comme arrêter de fumer et regarder ce qu'on a économisé tous les jours. Je comprends la démarche. Et en même temps, ça me paraît obscur. Mais
Vous avez dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire dans
cette
rubrique.
Merci, au revoir. À la semaine prochaine, vous parlez de quoi?
Non, en fait, oui, je suis d'accord avec vous. En fait, ça dépend des gens. Ça dépend effectivement surtout du comportement qui va être le leur derrière, d'accord ? C'est-à-dire que comme vous venez de dire pour votre collègue, quelqu'un qui entame alors un régime, j'aime pas bien ce mot, vous le savez, mais tout du moins un rééquilibrage alimentaire assorti peut-être avec une reprise de l'activité, etc. Là, ça peut pour cette personne-là, est intéressant de se peser tous les jours, si tant est que ce soit encourageant. Vous avez dit le maître mot, à mon avis. D'accord ? Par contre, on sait très bien que le poids, il peut être extrêmement variable. Alors, surtout chez la femme, au moment des cycles, évidemment. Mais même dans l'absolu, chez l'homme, si on a fait un repas un petit peu plus riche, si on a bu un petit peu plus d'eau, qu'on n'est pas tout à fait fini d'éliminer, etc., etc. Et du coup, parfois, la balance, même en ayant fait les choses les plus formidables et les mieux possibles, la balance va quand même monter. Et là, ça peut être destructeur.
Bon, en tout cas, le collègue en question, pour 2 grammes, il était capable de sabrer une bouteille de champagne. Hein. C'est
alors,
dire combien,
ça, voilà.
2 grammes aujourd'hui.
C'est effectivement un comportement déviant, entre guillemets, je mets ce mot. Mais effectivement, si le fait d'avoir perdu quelques grammes, parce que de toute façon, du jour au lendemain, ça ne peut être que ça, fait qu'on va s'autoriser plus facilement une prise alimentaire, qu'elle soit riche, sucrée, salée, chocolatée, peu importe, ou un verre d'apéro, effectivement, ce n'est pas non plus l'objectif.
Rajoute toujours, vous
mais
le savez,
oui,
vous me connaissez.
Mais ça permet de donner des images.
Je comprends la démarche encourageante, encore une fois, de se dire, ah ouais, et puis demain, un petit peu plus, un petit peu plus.
Peu moins aussi. Et des fois, ça peut être
ennuyeux. Ah oui, un petit... comment ça, non.
Eh bien, si voilà, on se pèse et puis qu'effectivement, d'accord. Alors, donc c'est vrai que pour moi, se peser, c'est quand même important parce qu'à l'inverse de votre collègue, il y a aussi des gens qui ne se pèsent jamais parce qu'ils considèrent qu'ils vont le sortir autrement. Et ils ont tout à fait raison. J'ai même des collègues, diététiciens ou médecins nutritionnistes qui ne vont pas peser les patients. Donc ça, vraiment, tout s'entend à ce niveau-là, pour moi, vraiment. Se peser, mais quand même à intervalles réguliers, même si ce n'est pas tous les jours, disons peut-être une fois toutes les semaines, ou toutes les quinzaines, ou une fois par mois, peu importe. Je pense que ça peut être intéressant, pas alors pour s'encourager peut-être, mais surtout pour voir ce qu'on met en place finalement. Est-ce que ça permet d'obtenir des résultats ou pas du tout? Et donc, du coup, de réactiver et de réorienter le champ du possible, si vous voulez.
Il y a toujours le côté compète avec le chiffre qui est inscrit sur la balance aussi.
Avec la balance. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'en général, quand on veut essayer de rééquilibrer son alimentation en vue de perdre du poids, ce qui est intéressant, c'est le point duquel on part, le point A, d'accord, et de voir à la fin le point B. Je rappelle quand même, au détour du truc, que la perte de poids, elle ne devrait pas être hyper rapide. Donc, on imagine bien qu'à l'intérieur de cette courbe descendante, on va zoomer et voir des petits pics, si vous voulez. Mmh. Des petits pics, bah, typiquement à Noël, typiquement là à Pâques, typiquement les vacances d'août, etc., etc. D'accord ? Donc, ce qui importe, c'est quand même, si vos patients se pèsent régulièrement, c'est de regarder le point A et le point B, et pas forcément tous les petits points intermédiaires qui peuvent fluctuer et être un petit peu démoralisants parfois. Autre point aussi à prendre grandement, à mon avis, en considération, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas fait de sport depuis un moment, admettons, d'accord, et qui nous vienne nous voir pour faire un rééquilibrage alimentaire, et qui en parallèle, et c'est génial, se remet à l'activité physique et ou sportive, d'accord, bah, cette personne-là, effectivement, va développer une masse musculaire assez rapidement, et de façon importante. Et or, on sait que la masse musculaire pèse plus lourd que la masse graisseuse. Du coup, il arrive, et il arrive assez fréquemment, que certains patients donc, fassent tout ça en même temps, et finalement, prennent du poids au départ.
Mais du bon poids.
Alors, je ne sais pas s'il y a du bon poids, mais en tous les cas, prennent du poids. Alors, il ne s'agit pas de dizaines de kilos, on est d'accord. Hein. Mais prennent du poids, mais par contre, disent « Ah ben, je me sens dégonflé, je me sens vachement plus alerte, je me sens plus gainé. » Voilà, ça, c'est les vrais bons paramètres, au-delà de l'aiguille. Vous voyez ? Hein ? Et puis, avoir à l'esprit aussi que, bah, finalement, il semblerait que le corps, quand même, ait une mémoire et que notre poids de forme, celui qu'on appelle de forme, bah, c'est-à-dire celui où on est bien à tout point de vue, hein, physique, social, mental, professionnel, etc., bah, que finalement, notre corps, il revient un peu naturellement tout le temps, en fait. Donc, je pense que c'est aussi important de savoir écouter ce poids que notre corps nous dicte et qui est bah, différent pour chacun d'entre nous, finalement.
Ah, on ne peut pas se débattre, on ne peut rien faire.
Ah si, on peut se débattre, mais voilà, tout l'enjeu, c'est est-ce que me débattre va être finalement positif ? Est-ce que les contraintes que je vais m'infliger en tant que régime restrictif vont être plus positives que les quelques kilos que je n'aimerais pas avoir, mais que j'ai et qui, visiblement, sont moi ? C'est une question de se faire confiance aussi, hein, de faire confiance et de se dire aussi, bah, finalement, effectivement, j'ai entamé toutes ces démarches, hein, de rééquilibrage alimentaire, d'activité, de sommeil, de stress, de ce que vous voulez. Finalement, c'est pour mon poids, mais finalement, c'est pour faire quoi ? C'est pour être mieux au final. Et donc, y a, là, on sait, hein, maintenant combien il n'y a pas que le poids qui compte.
Moi, je pense que si on entame un rééquilibrage, on a vite hâte de voir très rapidement, alors peut-être pas le lendemain, mais dans la semaine. Une semaine, ça me paraît bien comme délai.
Alors, c'est là où je vais vous contrer. C'est pas de voir, c'est de sentir.
Et vous êtes plus, comment dire, balance à aiguille ou balance électronique ? Il y a des choix à faire ?
Disons que les balances, vous savez, qui mesurent les masses graisseuses, les masses musculaires, etc., hormis d'avoir quelque chose d'extrêmement cher, un produit extrêmement cher, sinon effectivement, c'est pas forcément très très fiable. Après, bon voilà, ça fait pas de mal non plus. Voilà, après, sinon, il s'agit de se faire. Et des fois, on demande aux patients ou on leur propose de s'offrir eux-mêmes ça, de faire effectivement un test qui, avec une machine de l'hôpital, hein, un service radiographique qui mesure tout ça, les masses graisseuses, etc. Ça peut permettre de voir aussi ses progrès, par exemple, d'une année sur l'autre. On en parle à son médecin. C'est ça. Après, les aiguilles sont très bien. Le tout, c'est d'avoir de se peser, en tous les cas, toujours dans les mêmes conditions. Hein, c'est-à-dire, bah, par exemple, le matin, en se réveillant, avant le déjeuner, après être passé aux toilettes, enfin, etc. Et surtout, de l'avoir bien positionné à plat, que ce soit dans la salle de bain ou autre, pour que voilà, il n'y ait pas de différence.
Et arrêtez après, de vous reposer sur le bord de l'évier pour alléger.
Voilà, ouais, c'est ouais. Ça. Le tout, voilà, c'est de sentir et de se faire confiance. Et après tout, est-ce que c'est vraiment l'aiguille de la balance qui est le plus important ? Ou est-ce que c'est le fait de remettre sa robe de l'an dernier parce que je me suis gainée, musclée, qu'en même temps j'ai fait du bien à mon cœur, mes muscles, là, mon sommeil, etc.
C'est la bonne période, hein, pour réfléchir au rééquilibrage alimentaire. On arrive au printemps. Il est jamais trop tôt ni trop tard. Hein.
Voilà, la bonne période, c'est toute l'année.
C'est toute l'année. Mais là, en ce moment, bon, voilà, c'est un réflexe.
Il y a on se dit, tiens, on va enlever les grosses écharpes et les gros pulls derrière lesquels je me cache. Mais sinon, alors, par contre, je mets aussi une minute pour dire à tous vos auditeurs que venir aujourd'hui à la date à laquelle on est pour perdre 20 kilos avant l'été, c'est juste utopique.
Non, mais pas 20 kilos, 5. C'est bien de perdre 5 kilos. C'est parfait, ça fait du bien à la tête.
C'est pour ça que j'ai pris forcément un chiffre très élevé pour...
Et c'est toujours valable, ces histoires, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de poids. On a parlé de beaucoup de choses. Poids, taille, si on mesure 1m80, faudrait faire dans l'idéal 70 kilos.
C'est
ça
pareil,
dépend encore une fois.
Oui, ça dépend tellement de choses. Ça dépend de la masse osseuse, ça dépend de la masse musculaire, ça dépend du tour de taille. Enfin, le tour de taille est une mesure qui est certainement beaucoup plus importante que celle que vous évoquez, qui est l'IMC, qui ne prend en compte que le poids, la taille, le tour de taille, le rapport tour de taille, taille. Effectivement, est un bon paramètre, est un bon indicateur si la personne effectivement perd, alors peut-être pas du poids, mais en tous les cas du volume et surtout de la graisse autour des viscères. Mmh, et ça, c'est super important pour la santé.
Et ben voilà, c'était un petit point Diet News de Karine Justeau, nutritionniste et diététicienne, intervenante en Goumis Pomme-Pote Aveyron. On se retrouve la semaine prochaine pour, vous savez, nous parler de quoi à peu près, Karine, ou c'est, on reste dans la thématique
hein? En vous parlant là à l'instant, je me suis dit que ça serait sympa aussi de parler du coup des kilos émotionnels, qui peut entre guillemets être la suite d'aujourd'hui.
Kilos émotionnels.
Émotionnels, on verra ça la semaine prochaine.
Kilos. À la semaine prochaine, belle journée Karine.
Belle journée également à tout le monde.
Une petite musique. Et puis Delphine Henneke en studio, naturopathe et mycothérapeute. Ah oui, les lundis, on se fait du bien. On parle santé, bien-être, équilibre alimentaire.
CFM Villefranche, le mag.
Vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité. Laissez-moi vous dire que si vous êtes venu pour vous faire décalaminer le cervelet, vous tombez plutôt pas mal parce que Delphine Hennequet est là en studio avec nous, comme annoncé. Coucou Delphine.
Coucou David.
Pourfendeuse de la belette de Winchester, auteur du livre « Comment soigner son panari » en 10 leçons. Un bel ouvrage. Là, c'est le printemps, mais en général, l'été, petite séance de dédicace. Hein. Aujourd'hui, tu vas nous parler des plantes, des petites plantes aujourd'hui, des plantes de printemps qu'on peut observer.
Pas du tout, puisqu'il s'agit que tu me passes commande, tu vois bien, pour que je change d'avis pour un sujet de chronique. Nous allons parler du vinaigre de cidre et de ses applications. Donc c'est vrai, non mais moi je trouve que tous ces remèdes de mémé, franchement...
Ah, pas cher.
Ben oui, alors il y a ça, mais c'est pas pour des questions, je dirais, économiques, mais ça permet d'avoir chez soi des produits qui sont extrêmement polyvalents.
Oui.
Qu'on peut utiliser, voilà, que ce soit effectivement pour la cuisine, puisque bon, le vinaigre de cidre est utilisé dans les vinaigrettes, c'est vrai, depuis longtemps. Quoi, t'aimes pas trop ?
Il y a mieux quand même.
Il y a quoi de mieux ?
La sauce soja.
Ah, le shoyu, ouais, bon, c'est si bon. Ça me rendit. Ah. Mais le vinaigre de cidre a comme avantage, en fait, aussi de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est intéressant de l'utiliser au quotidien dans ces vinaigrettes. Bon, il a quand même une saveur qui est intéressante. Et puis, ça reste quand même un des vinaigres les moins agressifs aussi pour les personnes qui sont sensibles du tube digestif. Donc, ça c'est chouette. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour soigner certains maux et même pour un usage, cosmétique. Donc, c'est super intéressant.
Ah oui.
Et on va faire, je vais donner quelques pistes d'utilisation, hein, donc à vos bouteilles. Et on va voir que c'est un remède extrêmement polyvalent. Vraiment, à condition de le choisir, d'optimiser son usage en le choisissant non pasteurisé. Ça reste quand même... Alors, le mieux, c'est bio, non pasteurisé, pour pas avoir, en fait, flingué certains principes actifs qui sont contenus dans ce produit.
Plein de champs de compétences, mais on peut pas faire le ménage avec, contrairement à d'autres vinaigres.
On pourrait, mais ça serait un peu dommage, je trouve.
Oui, c'est gâché.
Ouais, c'est gâché. C'est gâché, mais alors si on devait faire un peu le tour de l'utilisation, je dirais, pour la bobologie. Donc, c'est vrai que sur les piqûres, sur les coups de soleil, quand on n'a rien sous la main pour un usage anti-inflammatoire, c'est vrai que ces propriétés permettent en fait de l'utiliser en compresse pour réellement soulager tout ce qui concerne les problèmes de peau. Y compris pour assouplir et nourrir la peau. C'est vrai que sa composition, elle est très riche en minéraux. Elle permet aussi, par des substances, de retenir l'eau dans la peau, donc de favoriser l'hydratation. Si on veut, par exemple, se faire un bon bain de pied qui va être délassant, et en même temps travailler toutes ces petites peaux, les craquelures au niveau des pieds, tous les jours une dizaine de minutes dans de l'eau tiède avec un verre de vinaigre de cidre, et puis on améliore considérablement la qualité de sa peau. Déjà, donc, on apporte vraiment du confort. Et puis, si on a tendance à avoir des gratouilles un peu partout.
Des gratouilles.
Des gratouilles, oui, exactement.
Des démangeaisons, quoi.
Ouais,
ça gratte,
voilà.
Ça gratte. Là, c'est la gale.
Pas sans parler de la gale, mais on peut utiliser le vinaigre de cidre. Mais on le faisait, ça. Moi, il me semble, quand on se faisait piquer par une guêpe, de suite, on mettait du vinaigre à l'époque. Non,
ça me dit quelque chose.
Ouais,
oui,
c'est
oui,
vrai.
Oui.
Hein. Donc,
c'était valable
pour ça.
Tout le vinaigre à l'époque.
On peut faire ça, c'est chouette. Mais aussi, l'avantage du vinaigre de cidre, c'est son côté aussi vasoconstricteur, légèrement astringent, qui va permettre d'être utile surtout dans tout ce qui est varices. Les personnes qui ont des varicosités au niveau des jambes, déjà, esthétiquement, c'est souvent pas génial. Et puis, ça peut même être douloureux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appliquer, de faire une petite compresse avec du vinaigre de cidre et de l'appliquer directement sur la varice. Et en plus de le faire de manière comme ça, répétitive, ça apporte... véritablement un soulagement qui alors qu'on a peu de stratégies pour le coup pour se soulager à ce niveau-là. Idem pour si on est dans les problèmes circulatoires, tout ce qui est hémorroïde, en crise hémorroïdaire, on peut se faire un petit bain de siège avec de l'eau tiède et dans lequel on aura versé un verre de vinaigre de cidre. Là aussi, le côté anti-inflammatoire et astringent va apporter un soulagement. Donc c'est quand même chouette de savoir qu'on a pratiquement tous dans nos placards du vinaigre de cidre qui peut servir en usage d'urgence comme ça pour des problématiques qui sont au final assez fréquentes.
Dans son shampoing, on peut en mettre un peu ?
Dans son shampoing, effectivement, parce que les bactéries contenues dans le vinaigre de cidre et les enzymes permettent d'assainir aussi les... parlais de la peau, la peau, mais le cuir chevelu aussi. Donc, pour tous ceux qui ont des pellicules ou un cuir chevelu qui est trop gras, par exemple, on va réguler le cuir chevelu, on va réguler la production de sébum, on va assainir. L'avantage aussi d'utiliser le vinaigre de cidre pour les cheveux, c'est qu'on va aussi neutraliser le calcaire de l'eau, donc qui a tendance à ternir les cheveux. On va aussi favoriser la nutrition au niveau du bulbe du cheveu, puisque si on assainit le cuir chevelu, si on améliore la micronutrition, y a plein de substances qui vont pouvoir atteindre le bulbe du cheveu. Mais c'est aussi parce qu'il y en a dans le vinaigre de cidre, en plus. Voilà. Donc ça, c'est chouette, on améliore sa chevelure. Et puis, c'est clair que même un usage comme ça, en se pchitant du vinaigre de cidre sous forme de lotion sur les cheveux, on les rend beaucoup, beaucoup plus brillants, en fait. Voilà. Mais il y a des gens qui l'utilisent même comme déodorant. Voilà.
Ah.
Ouais, mais l'odeur part, en fait, parce que nous, on se dit, on va pas utiliser du vinaigre de cidre, ça sent fort.
Oui.
Mais une fois que ça a séché, en fait, ça sent plus. Et comme c'est un antibactérien intéressant, mais forcément, qu'est-ce qui nous fait sentir des pieds ou sentir de sous les bras ou voilà, c'est une prolifération bactérienne de certaines bactéries. Donc à partir du moment où on les élimine, forcément, on sent meilleur. Donc il y en a qui l'utilisent effectivement comme déodorant. Le vinaigre de cidre, c'est vrai que c'est ça reste quand même pour comme remède minceur, quelque chose qui est très connu. C'était même vendu à une époque, et je crois que c'est encore le cas, sous forme de gélules. Parce que c'est pas toujours évident d'avaler le vinaigre de cidre. Ça, en fait, comme ça a des propriétés digestives aussi, ça permet de bien émulsifier les graisses. C'est protéolytique, c'est-à-dire que ça va nous aider à digérer les protéines. On va avoir une réduction des gaz, on va avoir une meilleure digestion, donc forcément une élimination supérieure aussi. Et on a observé avec les gens qui faisaient des cures comme ça de vinaigre de cidre une perte de poids, voilà, une perte de tour de taille en particulier. Il y a aussi un autre phénomène intéressant concernant son usage, c'est qu'il a la propriété, quand on fait ça sous forme de cure, c'est-à-dire en prendre une petite quantité le matin dans de l'eau, on va effectivement nettoyer son organisme, améliorer son tube digestif, mais on va travailler sur son équilibre acido-basique, dont je parle souvent, c'est-à-dire le fait qu'on ait trop d'acidité dans le corps et qu'il va falloir apporter en fait des minéraux et des oligo-éléments qui sont vraiment bio-assimilables, bien assimilables, de manière à rétablir cet équilibre-là. Et le vinaigre de cidre le fait très bien. Donc ça reste quelque chose qui peut même être sous forme de cure, un vrai traitement de terrain, en fait, au final. Donc d'où l'intérêt, alors évidemment, de ne pas en abuser, surtout si on a une petite sensibilité au niveau de l'estomac, mais diluer de manière correcte et prise de manière aussi régulière, mais non abusive, c'est vraiment un atout beauté et santé, quoi.
À 3,50 le litre et pop,
ouais,
quoi. Hein.
Carrément, ouais. Carrément, ça vaut pas le coup de s'en passer.
Le vinaigre de cidre, c'est un joli tour. Il y a aussi dans ce schéma-là, le bicarbonate aussi.
Oui.
Ça a pas mal de champs de compétences.
C'est vrai, mais
peut-être moins sur le cosmétique, sur l'aspect cosmétique.
C'est aussi pour le côté alcalinisant aussi, hein, de même que le vinaigre de cidre a apporté ça. Mais pour traiter vraiment des bactéries au niveau de la peau, du cuir chevelu, et du tube digestif, c'est vrai que le vinaigre de cidre est encore plus performant. Voilà, donc sur des boutons, sur des inflammations, il y a vraiment un effet anti-inflammatoire qui est très très intéressant.
Hey, vinaigre de cidre, bicarbonate.
Comme pour déboucher l'évier. C'est parfait.
Ça mousse. Non, ça
mousse.
Doit mousser.
Hein, ouais,
ça doit mousser. Ouais.
Ça mousse.
Et vinaigre de cidre aujourd'hui au programme. Une petite recommandation, on a un petit peu de temps, c'est le printemps, pas de plantes, hein, pas de plantes du tout. La dernière fois, si quand même tu nous as dit les coucous, jetez-vous, les coucous.
Non,
pas ceux
pas
qui
dit
sont
ça,
au bord,
j'ai dit qu'on pouvait en mettre quelques-uns dans l'assiette comme ça pour manger, c'est sympa.
Une plante comestible facile. La semaine prochaine, tu sais de quoi tu vas à peu près nous parler?
Oui, je vous propose de vous faire découvrir, si je ne l'ai déjà fait, mais au pire, on en reparle. Avec plaisir, du champignon du soleil.
Le champignon du soleil.
Oui.
Tu nous mets sur la piste, une petite idée qu'on réfléchisse.
Ah, allez, on se met sur la piste des allergies, par exemple, qui sont là au printemps, très fort. Il y a plein de choses à dire sur lui. Donc,
Merci Delphine, belle journée, à tout bientôt. Ciao.
Ciao.
CFM Villefranche, le mag.